Sainte-Foy réfuta l'histoire présentée au nom du sieur de Blainvilliers, ou du moins, il se servit d'un détail de la lettre pour prouver que le prisonnier ne pouvait être le duc de Beaufort. Il rappela une épigramme de Madame de Choisy. « Monsieur de Beaufort voudrait bien mordre et ne le peut pas. » Ce n'était pas lui dont les paysans avaient pu voir les dents à travers le masque. Son système sembla prévaloir jusqu'au moment et où le père Griffet, jésuite, confesseur à la Bastille, consacra au masque de fer le chapitre 13 de son traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité dans l'histoire, in 12, Liège, 1769. Il cita le premier une pièce authentique, constatant que cet homme masqué, sur lequel on discutait depuis si longtemps, avait existé. Le père Griffet produisit un extrait du journal manuscrit de M. Dujonca, lieutenant du roi à la Bastille en 1698, et des registres mortuaires de la paroisse Saint-Paul. Jeudi 8 septembre 1698, dit Dujonca, à 3 heures de l'après-midi, Monsieur de Saint-Mars, gouverneur de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée, venant des îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, ayant amené avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerolles, dont le nom ne se dit pas, lequel on fait tenir toujours masqué, et qui fut d'abord mis dans la tour de la Bassinière en attendant la nuit, et que je conduisis moi-même sur les 9 heures du soir dans la 3e chambre de la tour de la Berthaudière, laquelle chambre j'avais eu soin de meubler de toutes sortes de choses avant son arrivée, en ayant reçu l'ordre de M. de Saint-Mars. En le conduisant dans ladite chambre, j'étais accompagné du sieur Osarge, que M. de Saint-Mars avait amené avec lui, lequel était chargé de servir et de soigner le dit prisonnier, qui était nourri par le gouverneur.
Note 4.
Cette chambre était au 3e étage. Les chambres ont toutes leurs numéros. Elles portent le nom du degré de leur élévation, comme leurs portes se présentent à droite et à gauche en montant. Ainsi, la première basinière est la première chambre de la tour de ce nom, au-dessus du cachot. Puis la seconde basinière, la troisième, la quatrième et la calotte basinière. Remarques historiques et anecdotes sur la Bastille, 1774. Note 5. L'ameublement ordinaire de chaque chambre de la Bastille consistait en un lit de serge verte avec rideaux, paillasse et 3 matelas, 2 tables, 2 cruches d'eau, une fourchette de fer, une cuillère d'étain et un gobelet de même métal, un chandelier de cuivre, des mouchettes de fer, un pot de chambre, 2 ou 3 chaises et quelquefois un vieux fauteuil. Ibidem. Constantin de Renneville, auteur de l'Inquisition française, enfermé dans la seconde chambre de la Berthaudière, en 1703, a fait la description de sa prison. C'était un petit réduit octogone, large environ de 12 à 13 pieds en tous sens et à peu près de la même hauteur. Il y avait un pied d'ordure sur le plancher qui empêchait de voir qu'il était de plâtre. Tous les créneaux étaient bouchés, à l'exception de 2 qui étaient grillés. Ces créneaux étaient du côté de la chambre, larges de 2 pieds, et allaient toujours en diminuant en cône dans l'épaisseur du mur jusqu'à l'extrémité qui, du côté du fossé, n'avait pas 2 demi-pieds d'épaisseur, et par ce même côté, ils étaient fermés d'un treillis de fer fort serré. Comme c'était à travers ce treillis que venait le jour, qu'il était encore obscurci par cette épaisseur de mur qui, de ce côté, à 10 pieds, par la grille, et par une fenêtre qui fermait la chambre, à voler, garnie d'un verre très épais et très sale, il était si faible que, quand il entrait dans la chambre, à peine servait-il à distinguer les objets et ne formait qu'un faux jour. Les murs de la chambre étaient très sales et gâtés d'ordures. Ce qu'il y avait de plus propre était un plafond de plâtre très uni et très blanc. Pour tout meuble, il n'y avait qu'une petite table pliante, très vieille et rompue, et une petite chaise enfoncée, de paille, et si disloquée qu'à peine pouvait-on s'asseoir dessus. La chambre était pleine de puces. Cela provenait de ce que le prisonnier qui en venait de sortir pissait sans façon contre les murs. Ils étaient tapissés de noms de quantités de prisonniers. Sur les 7 heures, on m'apporta un petit lit de camp de sangle, un matelas, un travers de lit garni de plumes, une méchante couverture verte, toute percée, et si pleine d'une épouvantable vermine que j'ai eu bien de la peine à l'en purger. Histoire de la Bastille, tome 1, page 105. Suite du récit « L'homme au masque de fer ». Le journal de Dujonquart rapportait la mort du prisonnier en ces termes. Du lundi 19 novembre 1703. Le prisonnier, inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, que M. de Saint-Mars avait mené avec lui, venant de l'île Sainte-Marguerite, qu'il gardait depuis si longtemps, s'étant trouvé hier un peu plus mal en sortant de la messe, il est mort aujourd'hui sur les 10 heures du soir, sans avoir eu une grande maladie, il ne se peut pas moins. M. Guiraud, notre aumônier, le confessa hier. Surpris de la mort, il n'a pu recevoir les sacrements et notre aumônier l'a exhorté un moment avant de mourir. Il fut enterré le mardi 20 novembre à 4 heures après-midi dans le cimetière de Saint-Paul, notre paroisse. Son enterrement coûta 40 livres. On cacha son nom et son âge au prêtre de la paroisse. Les registres mortuaires portaient seulement l'an 1703 et le 19 novembre, Marchiali, âgé de 45 ans ou environ, est décédé dans la Bastille, duquel le corps a été inhumé dans le cimetière de Saint-Paul, sa paroisse, le 20 du présent, en présence de M. Rosarge et de M. Ray, chirurgien-major de la Bastille, qui ont signé Rosarge, Ray. Dès qu'il fut mort, il est certain qu'on brûla généralement tout ce qui avait servi à son usage, comme linge, habits, matelas, couvertures et jusqu'aux portes de sa prison, le bois de lit et ses chaises. Son couvert d'argent fut fondu, et l'on fit regratter et blanchir les murailles de la chambre où il avait logé. On poussa les précautions au point d'en défaire les carreaux, dans la crainte sans doute qu'il n'eût caché quelques billets ou fait quelques marques qui eût pu faire connaître qui il était. Le père Griffet, après avoir combattu l'opinion de Lagrange Chancel et celle de Sainte-Foy, sembla pencher pour la version des mémoires de Perse, que, selon lui, on n'avait pas réfutée encore par des preuves sans réplique. Il conclut en disant que, pour former une décision, il fallait savoir la date certaine de l'arrivée du prisonnier à Pignerolles. Sainte-Foy se hâta de répliquer et soutint de nouveau son opinion. Il fit venir d'Arras l'extrait des registres capitulaires de la cathédrale, constatant que Louis XIV avait écrit lui-même au chapitre pour lui enjoindre de recevoir le corps du comte de Vermandois, décédé en la ville de Courtrai, qu'il avait désiré que le défunt fût inhumé au milieu du cœur de l'église, dans le même caveau qu'Élisabeth, comtesse de Vermandois, et femme de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, morte en 1182. On ne pouvait pas supposer que Louis XIV eût choisi un caveau de famille pour y faire enterrer une bûche. Sainte-Foy n'avait pas connaissance de la lettre de Barbézieux du 13 août 1691 que nous avons citée pour réfuter la supposition du comte de Vermandois. Cette lettre détruit aussi l'opinion que Sainte-Foy avait fait prévaloir puisque le duc de Monmouth fut condamné en 1685. Ce n'est pas de lui que Barbezieux aurait pu écrire en 1691 « Le prisonnier que vous avez depuis 20 ans ». La même année où Sainte-Foy se flattait d'avoir établi son système d'une manière victorieuse, le baron d'Aise en présenta un autre dans une lettre datée de Falsbourg, 28 juin 1770, et adressée au journal encyclopédique. Il y joignit une lettre traduite de l'italien et insérée dans l'histoire abrégée de l'Europe par Jacques Bernard, qu'on publiait à l'aide chez Claude Jordan, 1685 à 1687, en feuilles détachées. On apprenait par cette lettre, mois d'août 1687, article Mantoue, que le duc de Mantoue, ayant dessein de vendre sa capitale au roi de France, son secrétaire l'en détourna et lui persuada même de s'unir aux autres princes d'Italie pour s'opposer à l'ambition de Louis XIV. Le marquis d'Arcy, ambassadeur de France à la cour de Savoie, ayant eu connaissance de ces complots, l'accabla de civilité, le régala fort souvent et l'invita enfin à une grande chasse à 2 ou 3 lieues de Turin. Ils partirent ensemble, mais à peu de distance de la ville, ils furent enveloppés par 12 cavaliers qui enlevèrent le secrétaire, le déguisèrent, le masquèrent et le conduisirent à Pignerolles. Le prisonnier ne resta pas longtemps dans cette forteresse qui était trop près de l'Italie, et quoiqu'il y fût gardé très soigneusement, on craignait que les murailles ne parlassent. On le transféra donc aux îles Sainte-Marguerite, où il est à présent sous la garde de Monsieur de Saint-Mars. Ce système, qui était destiné à être reproduit plus tard, ne fit pas d'abord grande sensation. Il est certain que le secrétaire du duc de Mantoue, nommé Mattioli, fut arrêté en 1679 par l'entremise de l'abbé d'Estrade et de Catinat, conduit à Pignerol dans le plus grand secret et emprisonné sous la garde de Monsieur de Saint-Mars. Mais on ne peut le confondre avec le masque de fer. Catinat dit de Mattioli, dans une lettre à Louvois, « Personne ne sait le nom de ce fripon. » Louvois écrit à Saint-Mars, « J'admire votre patience et que vous attendiez un ordre pour traiter un fripon comme il le mérite quand il vous manque de respect. » Saint-Mars répond au ministre, « J'ai chargé Blainvilliers de lui dire, en lui faisant boire un gourdin, qu'avec cela on rendait les extravagants honnêtes. » Louvois écrit une autre fois, « Il faut faire durer 3 ou 4 ans les habits de ces sortes de gens. » Ce n'est pas là assurément ce prisonnier inconnu qu'on traitait avec tant d'égards, devant qui Louvois se découvrait, à qui on donnait du beau linge, des dentelles, etc., etc. Tout semble indiquer d'ailleurs, dans les correspondances de Saint-Mars, que ce malheureux, enfermé avec un jacobin aliéné, devint fou lui-même et succomba vers la fin de l'année 1686. Voltaire, qui, le premier peut-être, avait fourni cet inépuisable aliment à la controverse, garda le silence et ne se mêla nullement de ces débats. Quand tous ces systèmes se furent produits, il entreprit de les réfuter tous. Il se moqua vivement, dans la 7e édition du Dictionnaire philosophique, de la complaisance qu'on supposait à Louis XIV, qui aurait servi de sergent et de geôlier au roi Jacques II, puis au roi Guillaume et à la reine Anne, avec lesquels il fut en guerre. Persistant toujours à donner la date de 1661 ou 1662 au commencement de la captivité du masque de fer, il combattit l'opinion de Lagrange Chancel et celle du père Griffet, renouvelée des mémoires de Perse. « Toutes ces illusions étant dissipées, dit-il, il reste à savoir qui était ce prisonnier, toujours masqué, à quel âge il mourut. Il est clair que si on ne le laissait passer dans la cour de la Bastille, si on ne lui permettait de parler à son médecin que couvert d'un masque, c'était de peur qu'on ne reconnût dans ses traits quelque ressemblance trop frappante. Il pouvait montrer sa langue et jamais son visage. Pour son âge, il dit lui-même à l'apothicaire de la Bastille, peu de jours avant sa mort, qu'il croyait avoir 60 ans. Et le sieur Marsauban, chirurgien du maréchal de Richelieu et ensuite du duc d'Orléans, régent, gendre de cet apothicaire, me l'a redit plus d'une fois. Celui qui écrit cet article en sait peut-être plus que le père Griffet. Il n'en dira pas davantage. Cet article du Dictionnaire philosophique fut suivi d'une addition de l'éditeur, attribuée par les éditeurs de Quelle à Voltaire lui-même. Question sur l'encyclopédie, distribuée en forme de dictionnaire, Genève 1791. L'éditeur, qui s'appelle aussi l'auteur, rejette sans réfutation toutes les opinions qui étaient en lutte, y compris celles du baron d'Ess. Selon le soupçon de l'éditeur, le masque de fer était un frère aîné de Louis XIV. Anne d'Autriche l'avait eu d'un amant, et la naissance de ce fils aurait détrompé la reine sur sa prétendue stérilité. Après cette couche secrète, par le conseil du cardinal de Richelieu, un hasard avait été adroitement ménagé pour obliger absolument le roi à coucher en même lit avec la reine. Un second fils fut le fruit de cette rencontre conjugale, et Louis XIV avait ignoré jusqu'à sa majorité l'existence de son frère adultérin. La politique de Louis XIV, affectant un généreux respect pour l'honneur de la royauté, avait sauvé de grands embarras à la couronne et un horrible scandale à la mémoire d'Anne d'Autriche, en imaginant un moyen sage et juste d'ensevelir dans l'oubli la preuve vivante d'un amour illégitime. Ce moyen dispensait le roi de commettre une cruauté qu'un monarque moins consciencieux et moins magnanime que Louis XIV eût estimé nécessaire. Depuis cette déclaration, Voltaire s'abstint de revenir sur le masque de fer. Cette dernière opinion renversa celle de Sainte-Foy. Voltaire avait été initié à ce secret d'État par le maréchal de Richelieu. N'est-il pas permis de supposer que son indiscrétion naturelle l'entraîna à dire ce qu'il savait sous le voile d'un pseudonyme, ou du moins à énoncer une version qui approchait de la vérité, et que, si plus tard il garda le silence, c'est qu'il reconnut ou qu'on lui fit reconnaître la dangereuse portée de ses paroles. Ce prince, devenu le prisonnier masqué, était-il illégitime ou un frère jumeau? La première de ces deux opinions fut soutenue par M. Quentin Crawford. La seconde fut énoncée par l'abbé Soulavie dans les mémoires du maréchal de Richelieu. En 1783, le marquis de Luché, dans le Journal des gens du monde, tome 4, numéro 23, pages 282 et suivantes, fit honneur à Buckingham de la paternité en litige. Il cita en témoignage une demoiselle de Saint-Quentin, ancienne maîtresse du ministre Barbezieux, qui mourut à Chartres vers le milieu du XVIIIe siècle et qui avait dit publiquement que Louis XIV condamna son frère aîné à une prison perpétuelle et que la parfaite ressemblance des deux frères nécessita l'invention du masque pour le prisonnier. Le duc de Buckingham, venu en France en 1625 pour conduire en Angleterre Henriette de France, sœur de Louis XIII, qui avait été accordée au prince de Galles, montra, il est vrai, l'amour le plus vif pour la reine. Et il paraît certain que cette princesse ne fut pas insensible à la passion qu'elle avait inspirée. Une pièce anonyme, la conférence du cardinal Mazarin avec le gazetier, Bruxelles, 1649, dit même qu'Anne d'Autriche en devint éperdument amoureuse, que ce duc lui rendit visite jusque dans son lit, et même qu'il lui tira son gant de la main, et qu'il le montra par vanité à plusieurs personnes de la cour, ceux dont le roi s'offensa beaucoup. Une anecdote que l'on ne conteste pas, c'est que Buckingham tint un jour à la reine des propos si passionnés en présence de la marquise de Sennecey, sa dame d'honneur, que celle-ci lui dit « Taisez-vous, monsieur, on ne parle pas ainsi à une reine de France ». Cette nouvelle version faisait naître l'homme au masque au plus tard en 1637, mais une date positive détruisait la paternité de Buckingham, assassiné à Portsmouth le 2 septembre 1628. Lors de la prise de la Bastille, le prisonnier masqué redevint un objet de mode et d'engouement. Le 13 août 1789, la dernière feuille des loisirs d'un patriote français annonça que le rédacteur anonyme prétendait avoir vu, avec plusieurs autres papiers trouvés à la Bastille, une carte qui contenait le numéro inintelligible 64 389 000 et la note suivante « Fouquet, arrivant des îles Sainte-Marguerite, avec un masque de fer, ensuite 3X, et au-dessous, Kersadion. » Le journaliste présumait que Fouquet avait réussi à se sauver, avait été repris, masqué et condamné à passer pour mort en châtiment de sa tentative d'évasion. Ce système produisit une certaine impression et on se rappela que le supplément du siècle de Louis XIV avait fait dire à Chamillard que le masque de fer était un homme qui avait tous les secrets de M. Fouquet. Mais l'authenticité de cette carte n'a jamais été prouvée et on ne peut l'admettre sur la simple assertion d'un anonyme. Depuis que les écrivains n'avaient plus besoin de l'approbation et du privilège du roi pour publier leurs pensées, chaque jour voyait éclore une brochure sur le masque de fer. Louis Dutens, correspondance interceptée in 12 1789, reproduisit le système du baron d'Es, qu'il appuya de fait aussi neuf que singulier. Il donna la preuve que Louis XIV avait fait enlever un ministre du duc de Mantoue, lequel avait été enfermé à Pignerolles. Dutens donnait à la victime le nom de Girolamo Mani. Il cita aussi en mémoire rédigée à l'instance du marquis de Castellane, gouverneur des îles Sainte-Marguerite, par un nommé Souchon, le même probablement que l'officier que Papon avait interrogé en 1778, fils d'un homme qui avait été cadet de la Compagnie franche des îles du temps de Saint-Mars et alors âgé de 79 ans. Ce mémoire rapporte en détail l'enlèvement du prisonnier masqué en 1670, qu'il appelle un ministre de l'Empire et rapporte que le prisonnier mourut aux îles Sainte-Marguerite 9 ans après sa disparition. Dutens enlevait par là, à l'anecdote, le merveilleux dont Voltaire l'avait entouré et citer le témoignage du duc de Choiseul qui, n'ayant pu arracher à Louis XV le secret du masque de fer, pria Madame de Pompadour de le demander au roi et apprit d'elle que le prisonnier était le ministre d'un prince italien. En même temps que Dutin s'affirmait que « il n'y a aucun point d'histoire mieux établi que le fait que le prisonnier au masque de fer fût un ministre du duc de Mantoue enlevé à Turin ». M. Quentin Crawfurn soutenait que le prisonnier était un fils d'Anne d'Autriche. Quelques années auparavant, l'avocat Bouche, Essai sur l'histoire de Provence, deux volumes in quarto, 1785, avait traité cette histoire de fable inventée par Voltaire et croyait que le prisonnier était une femme. Comme on le voit, la discussion n'apportait aucune lumière et la confusion, loin de se dissiper, allait toujours en augmentant. En 1790, parurent les mémoires du maréchal de Richelieu, qui avait confié ses notes, sa bibliothèque et ses correspondances à Soulavi. Avant de mettre sous les yeux du lecteur l'extrait de ses mémoires qui traite de l'homme au masque de fer, et qui a pour lui, sinon une authenticité incontestable, du moins de fortes présomptions morales, quoi qu'on en puisse dire, et qui a rallié la grande majorité des opinions, parlons pour mémoire seulement de deux autres systèmes qui n'ont pu soutenir l'examen. Suivant un mémoire manuscrit de M. de Bonnac, ambassadeur de France à Constantinople en 1724, le patriarche arménien Arouédix, ennemi mortel de notre religion et auteur de la cruelle persécution que les catholiques avaient soufferte, fut exilé et enlevé à la sollicitation des jésuites par une barque française pour être conduit en France et mis dans une prison d'où il ne pourrait jamais sortir. Arouédix fut mené aux îles Sainte-Marguerite et de là à la Bastille, où il mourut. Le gouvernement turc réclama instamment la délivrance du patriarche jusqu'en 1723 et le cabinet français nia toujours sa participation à cet enlèvement. Si l'on ne savait pas qu'Arouédix se convertit au catholicisme et mourut libre à Paris, comme le prouve son extrait mortuaire conservé aux archives étrangères, il suffirait de cette phrase du manuscrit de M. de Bonnac, disant que ce patriarche fut enlevé pendant l'ambassade de M. Ferriol à Constantinople, qui succéda à M. de Châteauneuf en 1699. Or, Saint-Mars arriva à la Bastille en 1698 avec son prisonnier masqué. Plusieurs savants anglais avaient cru, avec l'historien Gibbon, que l'homme au masque pouvait être Henri, second fils d'Olivier Cromwell, gardé en otage par Louis XIV. Il est étrange, en effet, que ce second fils du protecteur soit rentré en 1659 dans une obscurité si complète qu'on ne sait ni où il a vécu, ni où il est mort. Mais pourquoi serait-il devenu prisonnier d'État en France, où son frère Richard avait la permission de séjourner? En l'absence de toute espèce de preuve, il n'y a dans cette supposition aucune probabilité, même la plus légère. Voici maintenant l'extrait des mémoires du maréchal de Richelieu. Sous le feu roi, il fut un temps où, dans tous les ordres de la société, on se demandait quel était ce fameux personnage connu sous le nom de Masque de fer. Mais je vis cette curiosité se ralentir quand 5 mars, l'ayant conduite à la Bastille, on affecta de dire qu'on avait ordre de tuer ce prisonnier s'il se faisait connaître. Saint-Mars faisait entendre aussi que celui qui aurait le malheur de dévoiler qui il était subirait le même sort. Cette menace d'assassiner le prisonnier et les curieux du secret fit dès lors une telle impression qu'on ne parla qu'à demi-mot tant que le feu roi vécut de ce mystérieux personnage. L'auteur anonyme des Mémoires secrets de la cour de Perse, publié chez l'étranger 15 ans après la mort de Louis XIV, est le premier qui osa parler du prisonnier et rapporter quelques anecdotes. Depuis ce temps-là, la liberté se manifestant tous les jours avec plus de hardiesse en France, dans la société et dans les livres, et la mémoire de Louis XIV perdant de plus en plus aux anciennes influences, on raisonna librement sur ce prisonnier. Cependant, on me demande encore à la fin de mes jours, et 70 ans après la mort de Louis XIV, quel était ce prisonnier au masque de fer. C'était la question que je faisais en 1719 à la princesse adorable que le régent aimait, mais dont il était détesté parce qu'elle m'aimait éperdument et parce qu'elle ne devait avoir que du respect pour ce prince. Cependant, comme on était persuadé dans ce temps-là que le régent était instruit du nom, des aventures et des causes de l'emprisonnement du masque, je tentai, plus curieux et plus hardi que tout autre, d'arracher du régent, par le moyen de ma princesse, le grand secret. Elle était accoutumée à rebuter le duc d'Orléans et à lui témoigner une grande aversion. Mais comme il fut toujours passionnément amoureux d'elle, et comme à la moindre lueur de quelque espérance de bonheur, il lui accordait tout ce qu'elle lui demandait, j'intéressai ma charmante princesse, déjà fort curieuse de son naturel, dans mon projet, et je l'engageai à faire entendre au régent qu'il serait heureux et qu'il serait satisfait s'il voulait permettre la lecture des mémoires du masque de fer qu'il avait. Le duc d'Orléans n'avait jamais dévoilé aucun secret d'État. Il était d'une circonspection inouïe sur cet article, car Dubois, son précepteur, l'avait accoutumé à le garder. Il n'était pas probable qu'il délivrât ce mémoire, qui pouvait dévoiler la condition et l'origine du prisonnier masqué. Aussi, la démarche de la princesse auprès du régent me paraissait-elle au moins inutile. Mais l'amour, et un amour aussi pressant, pour la récompenser, le régent lui délivra donc l'écrit qu'elle m'envoya le lendemain, enveloppé d'un billet chiffré que les lois de l'histoire veulent que je rapporte en entier comme un monument essentiel de notre histoire dont je garantis l'authenticité. Car la princesse m'écrivait en chiffres quand elle me parlait le langage de la galanterie et me disait dans ce billet quel traité avait été conclu de son côté pour avoir le mémoire et du côté du régent pour arriver au but si désiré. L'histoire défend les détails, mais en empruntant le langage modeste des patriarches, je puis dire que si Jacob, pour avoir en mariage celle des filles de Laban qu'il aimait le plus, fut obligé de l'acheter deux fois, le régent exigea de la princesse encore plus que le patriarche. Voici le billet chiffré. Le mémoire historique suivra. Pour ne pas alourdir l'enregistrement, les chiffres se trouvent dans le billet de présentation. Relation de la naissance et de l'éducation du prince infortuné, soustrait par les cardinaux de Richelieu et de Mazarin à la société et renfermé par l'ordre de Louis XIV. Composé par le gouverneur de ce prince au lit de mort. Le prince infortuné, que j'ai élevé et gardé jusque vers la fin de mes jours, naquit le 5 septembre 1638 à 8h30 du soir pendant le souper du roi. Son frère, à présent régnant, était né le matin, à midi, pendant le dîner de son père. Mais autant la naissance du roi fut splendide et brillante, autant celle de son frère fut triste et cachée avec soin. Car le roi, averti par la sage-femme que la reine devait faire un second enfant, avait fait rester en sa chambre le chancelier de France, la sage-femme, le premier aumônier, le confesseur de la reine et moi pour être témoin de ce qu'il en arriverait et de ce qu'il voulait faire s'il naissait un second enfant. Déjà depuis longtemps, le roi était averti par prophétie que sa femme ferait deux fils, car il était venu depuis plusieurs jours des pâtres à Paris qui disaient avoir eu inspiration divine, si bien qu'il se disait dans Paris que si la reine accouchait de deux dauphins, comme on l'avait prédit, ce serait le comble du malheur de l'État. L'archevêque de Paris, qui fit venir ses devins, les fit renfermer tous les deux à Saint-Lazare parce que le peuple en était ému, ce qui donna beaucoup à penser au roi à cause des troubles qu'il avait lieu de craindre dans son état. Arriva ce qui avait été prédit par les devins, soit que les constellations en eussent averti les pâtres, soit que la Providence voulut avertir sa majesté des malheurs qui pouvaient advenir à la France. Le cardinal, à qui le roi, par un messager, avait fait savoir cette prophétie, avait répondu qu'il fallait s'en aviser, que la naissance de deux dauphins n'était pas une chose impossible, et que, dans ce cas, il fallait soigneusement cacher le second, parce qu'il pourrait, à l'avenir, vouloir être roi, combattre son frère pour soutenir une nouvelle ligue dans l'État et régner. Le roi était souffrant dans son incertitude, et la reine, qui poussa des cris, nous fit craindre un second accouchement. Nous envoyâmes quérir le roi, qui pensa tomber à la renverse, pressentant qu'il allait être père de deux dauphins. Il dit à Monseigneur l'évêque de Meaux qu'il avait prié de secourir la reine, « Ne quittez pas mon épouse jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. J'en ai une inquiétude mortelle. » Incontinent après, il nous assembla, l'évêque de Meaux, le chancelier, le sieur Honorat, la dame Péronnette, sage-femme, et moi, et inaudite en présence de la reine, afin qu'elle pût l'entendre, que nous en répondrions sur notre tête si nous publions la naissance d'un second dauphin, et qu'il voulait que sa naissance fût un secret de l'État pour prévenir les malheurs qui pourraient arriver, la loi salique ne déclarant rien sur l'héritage du royaume en cas de naissance de deux fils aînés des rois. Ce qui avait été prédit arriva, et la reine accoucha pendant le souper du roi d'un dauphin plus mignard et plus beau que le premier, qui ne cessa de se plaindre et de crier comme s'il eût déjà éprouvé du regret d'entrer dans la vie, où il aurait ensuite tant de souffrances à endurer. Le chancelier dressa le procès-verbal de cette merveilleuse naissance, unique dans notre histoire. Ensuite, Sa Majesté ne trouva pas bien fait le premier procès-verbal, ce qui fit qu'elle le brûla en notre présence et ordonna de le refaire plusieurs fois, jusqu'à ce que Sa Majesté le trouvât à son gré, quoique pût remontrer M. l'aumônier, qui prétendait que Sa Majesté ne pouvait cacher la naissance d'un prince, à quoi le roi répondit qu'il y avait en cela une raison d'État. Ensuite, le roi nous dit de signer notre serment. Le chancelier le signa d'abord, puis M. l'aumônier, puis le confesseur de la reine, et je signai après. Le serment fut signé aussi par le chirurgien et la sage-femme qui délivra la reine, et le roi attacha cette pièce au procès-verbal qu'il emporta et dont je n'ai jamais ouï parler. Je me souviens que Sa Majesté s'entretint avec Monseigneur le chancelier sur la formule de ce serment et qu'il parla longtemps fort bas de Monseigneur le cardinal. Après quoi, la sage-femme fut chargée de l'enfant dernier-né et, comme on a toujours craint qu'elle ne parlât trop sur sa naissance, elle m'a dit qu'on l'avait souvent menacée de la faire mourir si elle venait à parler. On nous défendit même de jamais parler de cet enfant entre nous, qui étions les témoins de sa naissance. Pas un de nous n'a encore violé son serment, car Sa Majesté ne craignait rien tant après elle que la guerre civile, que ces deux enfants nés ensemble pourraient susciter, et le cardinal l'entretint toujours dans cette crainte quand il s'empara ensuite de la surintendance de l'éducation de cet enfant. Le roi nous ordonna aussi de bien examiner ce malheureux prince qui avait une verrue au-dessus du coude gauche, une tache jaunâtre à son col du côté droit et une plus petite verrue au gras de la cuisse droite, parce que Sa Majesté, en cas de décès du premier-né, entendait, et avec raison, mettre en sa place l'enfant royal qu'il allait nous donner en garde. Pourquoi il requit notre sein du procès-verbal qu'il fit sceller d'un petit sceau royal en notre présence, et nous le signâmes selon l'ordre de Sa Majesté et après elle. Et pour ce qu'il en fut des bergers qui avaient prophétisé sa naissance, jamais je n'ai pu en entendre parler, mais aussi je ne m'en suis enquis. Monsieur le cardinal, qui prit soin de cet enfant mystérieux, aura pu les dépayser. Pour ce qui est de l'enfance du second prince, la dame Péronnette en fit comme d'un enfant sien d'abord, mais qui passa pour le fils bâtard de quelques grands seigneurs du temps, parce qu'on reconnut, aux soins qu'elle en prenait et aux dépenses qu'elle faisait, que c'était un fils riche et chéri, encore qu'il fût désavoué. Quand le prince fut un peu grand, M. le cardinal Mazarin, qui fut chargé de son éducation après Mgr le cardinal de Richelieu, me le fit bailler pour l'instruire et l'élever comme l'enfant d'un roi, mais en secret. La dame Péronnette lui continua ses offices jusqu'à sa mort, avec attachement d'elle à lui et de lui à elle encore davantage. Le prince a été instruit en ma maison en Bourgogne avec tout le soin qui est dû à un fils de roi et frère de roi. J'ai eu de fréquentes conversations avec la reine-mère pendant les troubles de la France et Sa Majesté me parut craindre que si jamais la naissance de cet enfant était connue du vivant de son frère, le jeune roi, quelques mécontents n'en prissent raison de se révolter parce que plusieurs médecins pense que le dernier-né de deux enfants jumeaux est le premier conçu et, par conséquent, qu'il est roi de droit, tandis que ce sentiment n'est pas reconnu par d'autres de cet état. Cette crainte, néanmoins, ne put jamais engager la reine à détruire les preuves par écrit de sa naissance, parce qu'en cas d'événement et de mort du jeune roi, elle entendait faire reconnaître son frère, quoiqu'elle eût un autre enfant. Elle m'a souvent dit qu'elle conservait avec soin ses preuves par écrit dans sa cassette.